Cendrillon captive par Horace Van Hoffel. Je fis dans cette maison une entrée inattendue. Je venais de traverser le bois de Boulogne en motocyclette et je pensais à prendre le virage du retour lorsque brusquement, sans raison aucune, je me souvins de Michel, un vieux camarade, qui devait habiter non loin de l'endroit où j'étais arrivé. Plus d'une fois j'avais promis à Michel d'aller le voir, mais sans jamais tenir parole. L'occasion me parut bonne pour réparer ma négligence. Conduisant ma machine par la main, je suivais la berge de la Seine à pied. L'air était malsain, infesté de moustiques, chargé d'électricité. Et dans les eaux stagnantes du fleuve, quelques pontons abandonnés achevaient de tomber en ruine, pareils à des brûlots incendiés par les derniers feux du jour. La demeure de Michel, située sur le quai près du pont de Saint-Cloud, était un pavillon vétuste, mal tenu, en briques noircies et d'un style ridicule et prétentieux. Michel vivait là-dedans avec toute sa famille. Des gens du Nord chassés de leur pays par la guerre et n'ayant pas eu le courage, l'exode terminé, de rejoindre leur pénate. Sans les connaître, je les soupçonnais de paresse et de parasitisme. Je n'eus pas à sonner à la grille qui défendait l'entrée du jardin, un jardin désolant, livré aux mauvaises herbes et aux insectes. Michel était là, assis sur la margelle d'un vieux puits. Il jouait du violon. Ses cheveux gras pendaient le long de ses joues. À mon appel, il leva la tête et accourut. Pendant qu'il s'avançait, je m'apitoyais sur son air misérable. Vêtu d'une redingote décolorée, sans linge, il traînait à ses pieds de mauvaises espadrilles. « Ah oh » s'écria-t-il. « Oh !» Et cela sonnait comme un aboiement joyeux. « Oh, te voilà enfin ! Mieux vaut tard que jamais. Tout le monde là est curieux de te connaître. » En effet, nous trouvâmes la famille au complet dans une chambre du rez-de-chaussée, une chambre haute, sinistre et délabrée. Le papier des murs était sale, troué, les meubles boiteux et disparates, et de tous les coins sortait une intolérable odeur de poussière, d'ordures cachées et de souris mortes. Dans ce décor navrant, j'aperçus la plus affreuse collection de monstres que mes yeux eussent jamais contemplée. Cela ne pouvait s'appeler qu'une nichée de chiens, une nichée de chiens de rue, de chiens galeux et bâtards. Michel ressemblait à une bête bizarre, née du mariage d'un King Charles et d'un fox terrier. Son frère, Raphaël, un caniche rongé par une horrible teigne. Son beau-frère Antoine, un lévrier empaillé. Sa mère, dite la comtesse, un hideux amphibie, moitié phoque, moitié griffon. Son cousin Léon, un loup matiné de renard. Ahuri de voir grouiller, d'entendre japper tous ces phénomènes autour de moi, je ne savais trop quelle attitude prendre. Une vague crainte d'être mordu, léché, de gagner quelques maladies, voire quelques puces, me tourmentait. Cependant, mes oreilles finirent par s'accoutumer au bruit et mon regard à la demi-obscurité qui régnait en ce lieu. Alors, je remarquai deux jeunes femmes dont la physionomie ne m'avait pas frappé tout de suite. C'étaient les sœurs de Michel. L'aînée, Suzanne, avait un profil lourd, obstiné et sournois. L'autre, Claire, me parut plus intéressante. Elle appartenait bien à l'espèce hétéroclite qui l'entourait. Elle était pauvrement vêtue, peu soignée, et une sorte de voile grise semblait ternir l'éclat de son visage. Une absence totale d'aristocratie et de race se devinait dans des disproportions à peine accentuées de sa taille et de ses mains. Pourtant, une magnifique, une incomparable broussaille de cheveux d'or auréolait son visage attentif et son front intelligent. Se sentant observée, elle se leva et sortit. J'abrégeai ma visite. À l'instant où j'allais me retirer, Claire entra. Que s'était-il passé? Elle n'avait pas eu le temps de changer de robe, de refaire sa toilette, et néanmoins, elle était toute métamorphosée. On eût dit qu'une fée, cachée dans sa chambre, venait de la toucher de sa baguette magique. C'étaient toujours ses mêmes mains, ses mêmes épaules, sa même taille, mais tout cela, à présent, formait un ensemble plein de fierté, d'élégance et de charme. Sa pauvre robe usée se drapait comme une robe de reine. Elle fit quelques pas, et je faillis crier d'admiration. Seule une déesse pouvait avoir une démarche aussi légère, aussi noble et aussi assurée. Mais autour de Claire, la meute inquiète grognait, reniflait. Je surpris un coup d'œil de Suzanne, horriblement chargée de dépit et d'envie. De quel drame étais-je témoin? Je sortis de cette étrange maison, fort préoccupé. Jamais je n'y serais retourné sans la transfiguration de Claire. Une curiosité était entrée en moi, si aiguë, si ardente, qu'elle changea bientôt en amitié, puis en amour. À chacune de mes visites, le même spectacle se renouvelait. Il était évident que ces gens passaient leur vie à sommeiller, à se disputer de maigres pitances, à se surveiller jalousement l'un l'autre. Ils gardaient aussi, obscur instinct, un trésor, clair, et ses cheveux couleur de soleil et d'ambre. À présent, quand je la surprenais en négligé, en cendrillon, assise près de la cheminée noire, je ne me troublais plus. Je savais qu'elle possédait le pouvoir de devenir belle et majestueuse à volonté. Elle se faisait peut-être laide pour ne pas humilier les autres. J'essayais chaque fois de l'attirer à l'écart, pour lui parler le plus longtemps et le mieux possible. Cela n'était pas facile. Suzanne rôdait autour de nous, hargneuse, montrant une volonté tenace à ne pas laisser à sa sœur une joie, un plaisir, un os, dont elle, Suzanne, n'aurait pas eu sa part. Et la pauvre Claire, traquée, prête à se croire égoïste, l'excusait, elle-même tant. Cependant, je réussis d'obtenir de Claire quelques rendez-vous. Lia courait tout essoufflée, en regardant derrière elle. Rarement nos entrevues étaient heureuses. Claire tremblait en songeant aux suites de son escapade. On allait l'accabler de reproches, la questionner. Parfois, au moment où nos lèvres allaient s'unir, Suzanne surgissait entre nous, triomphante de nous avoir dépistés. Il montrait sans honte sa joie infâme de détruire notre bonheur. Sans pitié, elle ramenait la fugitive au domicile familial. Ce manège finit par m'impatienter. Je ne me gênais point pour traiter comme elle le méritait, la mauvaise et stupide fille. Elle s'en moquait, courbant le dos et recevant mes reproches avec l'effronterie menaçante d'une pauvresse qu'on met à la porte. N'était-elle pas certaine d'avoir le dernier mot? J'eus au moins la satisfaction de gagner la première partie du jeu. Rompant sa chaîne, Claire me donna une nuit, toute une belle nuit d'amour. Elle était venue comme de coutume, chaussée de ses mauvais souliers, vêtue de sa méchante robe. Mais à mesure que je lui parlais, et que le soir descendait sur les arbres, la mystérieuse transformation s'accomplissait. Près de nous, la fée invisible agissait et emplissait l'air de ses enchantements et de ses incantations. Claire me souriait, et je sentais planer sur elle la protection des elfes, des lutins et de tous les esprits de la terre, de l'eau et des airs. Une lueur nocturne lamait sa jupe d'argent et y brodait des perles. Toutes les étoiles du firmament n'étaient que de pâles étincelles jaillies de ses cheveux de flamme. Et rien n'était comparable à la douceur de son regard dans l'ombre, de ses lèvres et de ses mains. Oui, ce fut une belle nuit. Nous étions assis sur l'herbe. Des vers luisants nous éclairaient. Une nuit d'été digne de servir de cadre aux noces d'Obéron et de Titania. Comme des amants romantiques, nous échangeâmes des serments éternels sous les rayons furtifs d'une lutte incertaine, à chaque instant voilée par des nuages vagabonds. Mais derrière les collines, le ciel pâlit. Un coq chanta. « Oh, oh !» gémit Claire. « Que vont-ils dire ? Oh, je suis perdu. Suzanne doit être enragée. Oh !»« Laisse donc !» Mais Claire s'arracha de mes bras. Oubliant de me donner un dernier baiser, elle s'enfuit. Elle courait si vite qu'elle perdit un de ses souliers en route. Elle n'osa le ramasser et continua sa course, plus rapide que le vent. Alors je ramassai le soulier pour elle, espérant qu'elle viendrait le reprendre. Mais, hélas, Claire ne revint plus jamais. C'était Cendrillon captive par Horace von Hoffel.